VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du lundi 29 juillet 2019, en direct de Washington, Idrissa Seloudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée, au moins 4 personnes ont perdu la vie dans un éboulement sur un site aurifère.
Au Nigeria, la présidence a annoncé l'interdiction du mouvement islamique du Nigeria, un groupe chiite radical.
Ici aux États-Unis, le chef des services de renseignement américains, Dan Coats, démissionnera le 15 août, a annoncé le président Donald Trump.
Le président Trump, qui se défend face à de nouvelles allégations de racisme, après de vives attaques contre un élu noir et la ville de Baltimore.
Une nouvelle fusillade a fait 3 morts et 12 blessés en Californie, selon un conseiller municipal local.
En Russie, crainte pour la santé du principal opposant Alexei Navalny, victime d'une allergie qualifiée de bizarre par son camp.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En Guinée, au moins 4 personnes, dont une fillette de 2 ans et sa mère, ont été tuées samedi dans un éboulement sur un site aurifère du Nord-Est. Le point avec Bagassi Koura.
Le bilan de l'éboulement a été confirmé par la gendarmerie et un agent de la Croix-Rouge locale. Les 4 victimes comprennent une maman et sa fillette de 2 ans. 2 blessés ont également été conduits à l'hôpital de Sigiri, une ville située à environ 600 km de la capitale Conakry, selon les mêmes sources. Les victimes travaillaient dans une ancienne mine d'or interdite d'exploitation en raison des risques d'éboulement qu'elle présentait à cause de fortes pluies. Mais les gens se cachaient pour aller dans les galeries, a indiqué un agent de la Croix-Rouge. Au moins 17 orpailleurs clandestins avaient été tués en février dans une mine près de Nyora Soba, à quelques 35 km de Sigiri. Les éboulements sur des sites aurifères sont fréquents et souvent meurtriers en Guinée. Les mineurs clandestins viennent outre la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. La région de Sigiri compte à elle seule plus de 20 000 orpailleurs, selon des sources officielles.
Au Nigeria, la présidence a annoncé hier l'interdiction du mouvement islamique du Nigeria, un mouvement chiite radical, et ce après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja. Elle a souligné dans son communiqué « Le gouvernement devait agir avant que la situation ne soit hors de contrôle, après avoir averti à de nombreuses reprises que les gens ne devraient pas se servir de la religion pour ne pas respecter les lois. » Au moins 6 manifestants, un journaliste et un policier, ont été tués lundi dernier dans des violences qui ont éclaté pendant une marche organisée par le mouvement chiite pour obtenir la libération de son leader Ibrahim Zakzaki.
Nigeria toujours, une attaque du groupe djihadiste Boko Haram samedi contre des participants à une cérémonie de funérailles dans le Nord-Est a fait 65 morts, soit le triple de ce qui avait été annoncé dans un premier bilan. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Des dizaines de corps supplémentaires ont été découverts après l'attaque par des hommes armés d'un village proche de Maïdigouri, la capitale de l'État de Borno. Il y a 65 morts et 10 blessés, a déclaré le chef du gouvernement local, Mohamed Boulama. Plus de 20 personnes sont mortes dans l'attaque contre les participants rassemblés pour la cérémonie de funérailles et des dizaines d'autres ont été tués alors qu'elles tentaient de poursuivre les djihadistes, a-t-il précisé. Le dirigeant d'une milice locale anti-Boko Haram a confirmé ce bilan tout en faisant un récit légèrement différent de l'attaque. Des journalistes de l'AFP sur place ont vu des maisons incendiées lors de l'attaque. Des proches rassemblaient les corps des personnes tuées en vue de leur enterrement. Boko Haram est actif dans le district de Nganzaï, où il mène régulièrement des raids contre les villages. L'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria et sa répression ont fait plus de 27 000 morts et plus de 2 millions de déplacés en 10 ans.
Au Soudan, les généraux au pouvoir et les leaders de la contestation vont reprendre demain leurs négociations pour aborder des questions en suspens sur la transition. C'est ce qu'a annoncé hier un médiateur de l'Union africaine. Selon Mohamed El Hassen Labat, les deux parties qui ont signé le 17 juillet un accord de partage du pouvoir vont avoir des discussions finales sur la déclaration constitutionnelle. Un comité technique représentant les deux parties tiendra des discussions préliminaires dès lundi a-t-il ajouté.
En Tanzanie, une coalition d'ONG locales a dénoncé dimanche ce qu'elle a appelé un très grave problème d'écoute et d'interception illégale des communications. Elle a notamment condamné la récente publication sur les réseaux sociaux d'échanges attribués à des membres du parti au pouvoir critiquant le président John Magufuli. Depuis l'élection de ce dernier, fin 2015, des meetings de partis d'opposition ont été interdits, des responsables d'opposition arrêtés et poursuivis, des journaux fermés et des journalistes et artistes brutalisés ou menacés de mort après avoir critiqué la nouvelle administration.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Et si aux États-Unis, le chef des services de renseignement américains, Dan Coats, démissionnera le 15 août après 2 ans à son poste et des accrochages fréquents ou divergences publiques avec la Maison-Blanche. C'est ce qu'a annoncé hier le président Donald Trump, notamment nommant à sa place un fidèle partisan, le député républicain du Texas, John Ratcliffe. La semaine dernière, Ratcliffe avait énergiquement critiqué le procureur spécial Robert Mueller lors d'une déposition télévisée sur les conclusions de son rapport sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016.
D'autre part, le président Trump s'est défendu hier face aux nouvelles accusations de racisme déclenchées par sa diatribe de la veille contre un élu noir et la ville de Baltimore. De nouveau, Bagassikoura.
Le président américain a dépeint samedi en quelques tweets un tableau infâme de Baltimore, ville industrielle du Maryland, majoritairement noire, minée par des problèmes sociaux, la drogue et la violence. Un désordre dégoûtant, infesté de rats et autres rongeurs, a dit le président américain, ajoutant que c'est un endroit très dangereux et sale où aucun être humain ne voudrait vivre. Ces attaques visaient en premier lieu Elijah Cumming, élu de Baltimore au Congrès, qui avait critiqué la semaine dernière les conditions de détention des mineurs à la frontière avec le Mexique. Elles ont provoqué une volée de réponses indignées au sein de l'opposition. La chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, les qualifiant notamment de racistes. Les démocrates jouent toujours la carte du racisme alors qu'ils ont en réalité fait si peu pour les formidables Afro-Américains de notre pays, a répondu dimanche matin Donald Trump sur Twitter. Il n'y a rien de raciste, a-t-il insisté dans l'après-midi par le même biais, comme lorsqu'il avait invité mi-juillet 4 élus démocrates issus des minorités à retourner dans leur pays. Ces nouveaux propos ont été commentés avec parcimonie au sein de son camp.
États-Unis, toujours une fusillade lors d'une foire alimentaire à Gilroy, hier au sud de San Francisco, en Californie, a fait des victimes, 3 morts et 12 blessés, selon un conseiller municipal local cité par le New York Times, et qui dit qu'un suspect a été placé en détention. La chaîne de télévision NBC News a rapporté le témoignage d'une femme disant avoir vu un homme blanc d'une trentaine d'années ouvrir le feu avec un fusil.
En Russie, les craintes se multipliaient hier soir pour la santé du principal opposant, Alexei Navalny, transféré de sa cellule de prison à un hôpital après une réaction allergique qualifiée de bizarre par son entourage. Selon sa porte-parole, l'origine de la réaction allergique n'a pas été détectée. Toute sa vie durant, a-t-elle souligné sur Twitter, Alexei n'a jamais eu de réaction allergique. Opposant numéro 1 au président Vladimir Poutine, Navalny avait été envoyé en prison mercredi à 2 jours d'un rassemblement de l'opposition pour des élections libres. Selon une ONG, il y aurait eu plus de 1 400 arrestations à ce rassemblement samedi à Moscou.
L'Iran a mis en garde hier les Européens contre toute obstruction à ses exportations de pétrole. Il a estimé que la multiplication des incidents compromettait les efforts en cours pour sauver l'accord nucléaire de 2015, fragilisé par le retrait américain. Après une réunion à Vienne avec les États encore partis de l'accord, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Agarchi, a fait expressément allusion à l'arraisonnement début juillet d'un pétrolier iranien par les autorités britanniques au large de Gibraltar, arraisonnement qui a contribué à dégrader un contexte déjà marqué par de vives tensions dans le Golfe.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Le Sénégal lancera du 9 au 11 octobre prochain au Cap en Afrique du Sud une nouvelle série d'octrois de licences pétrolières et gazières en marche de l'Africa Oil, révèle la Tribune Afrique. L'objectif de Dakar est de développer le plein potentiel du secteur des hydrocarbures pour en faire un puissant pourvoyeur de croissance. Pour le pétrole, le Sénégal ambitionne de lancer la production d'ici 2022 avec un volume de 100 000 à 125 000 barils par jour, ce qui devrait aider le pays à atteindre 9,4% de croissance d'ici 2035. La Côte d'Ivoire devrait produire 2,4 millions de tonnes de cacao, alors que le Ghana s'achemine vers une récolte de 868 500 tonnes de fèves entre 2019 et 2020 grâce aux conditions météorologiques en Afrique de l'Ouest et à l'évolution de la collaboration entre les deux pays. Les cours mondiaux de cacao pourraient s'améliorer d'ici la fin de l'année. La tonne de fèves devrait atteindre 2 515 $, soit un gain de 4% par rapport au début d'année. D'après les experts cités par l'agence Ecofin, cette amélioration résultera principalement du déficit de 80 000 tonnes que devrait connaître le marché entre 2019 et 2020. Pour terminer, les candidats à la succession de Christine Lagarde à la tête du Fonds monétaire international pourront se déclarer à partir de ce lundi et ce jusqu'au 6 septembre. Le FMI est contraint de se trouver un nouveau directeur général d'ici le 4 octobre en raison du départ avant la fin de son mandat de Christine Lagarde, appelée à diriger la Banque centrale européenne.
Les sports à présent avec Élisée Onkpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football pour commencer avec le premier tour aller des éliminatoires du CHAN 2020. Le Bénin accroché à domicile par le Togo.
Oui, une bonne opération pour les Épervier qui ont arraché le nul 0-0. Ce score ne donne pas toutes les garanties aux Togolais, mais les met en confiance en vue du match retour prévu le 4 août prochain à Lomé. On écoute Jean-Paul Abalo, entraîneur du Togo.
Quand on fait match nul à l'extérieur, on peut dire qu'on n'est pas déçu. On est tombé quand même sur une très très bonne équipe de Nuance qui vraiment nous a posé beaucoup de problèmes. Moi, j'ai une équipe très jeune qui n'a aucune expérience sociale. Mais ils ont su tenir, mais je reste un truc, c'est le but qu'on marque qui est vraiment tout à fait valable. Et j'ai l'impression que ça fait deux fois qu'on nous refuse un but au Bénin. J'ai l'impression que les arbitres ils ont mis chose de nous. Mais j'étais vraiment à féliciter mes joueurs parce qu'ils ont vraiment, vraiment lutté.
Côté béninois, Moussa Latondji, l'entraîneur des écureuils, parle du manque de réalisme de ses joueurs.
Je pense que nous sommes tombés sur une équipe de Togo qui était bien en place. Et ils nous ont créé un peu de problèmes en première partie. Et voilà, en seconde partie, on a pu essayer de poser le ballon et d'accélérer un peu le jeu. Mais devant, on n'était pas agressif pour aller marquer le but. Donc c'est ce qui nous a manqué cet après-midi.
La suite des résultats du premier tour de cette compétition.
Le Sénégal s'incline 1-0 au Libéria. Victoire de l'Ouganda face à la Somalie 3-1. Succès aussi du Mali face à la Guinée-Bissau 4-0. L'Éthiopie l'a emporté 1-0 à l'extérieur contre Djibouti. Et puis, il n'y a pas eu de vainqueur entre le Cap-Vert et la Mauritanie. Score 0-0. Enfin, dans la zone sud, on jouait le deuxième tour. Le Botswana et la Zambie ont fait match nul. La Namibie a gagné à l'extérieur face aux Comores. Madagascar s'impose 1-0 devant le Mozambique et l'Afrique du Sud résiste mais s'incline 3-2 sur le fil face aux Lesotho.
Basketball, victoire historique pour la République démocratique du Congo qui remporte son premier titre continental.
Et certes, ce n'est que l'Afrocan réservé aux joueurs locaux, mais ce trophée vient récompenser le basket congolais à Bamako, au Mali. La RDC a largement dominé le Kenya en finale 82-61, tout la satisfaction de son entraîneur adjoint Piero Ilunga.
On a joué vraiment à plus de sagesse et d'intelligence. On a joué dans le système d'unité d'abord dans le staff technique et puis une bonne transmission des systèmes de joueurs. Et voilà, on a avancé petit à petit et livré les 5 matchs, 5 victoires. Donc nous avons apprécié le niveau, l'univers était très fort. On ne savait pas qu'en Afrique on avait des championnats si durs, on pensait que c'était juste l'Angola et la Tunisie. Mais voilà qu'on a découvert le Tchad, on a découvert le Kenya. Ils ont un très bon niveau local des athlètes.
Pierrot Ilunga, entraîneur adjoint des Léopards au micro de Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre radio partenaire. La troisième place a été décrochée par l'Algérie, victorieuse du Maroc 88-71.
Du volleyball avec l'épilogue de la CAN chez les hommes, la Tunisie soulève le trophée.
Le pays hôte s'est imposé difficilement en finale 3-7-2 devant le Cameroun. C'est le 10e titre pour la Tunisie. Dans le match pour la troisième place, victoire 3-7-1 de l'Algérie face à l'Égypte.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, le chef de file de l'opposition, Ama Amadou, qui vit en exil depuis la dernière élection présidentielle, ne peut plus parler et agir au nom de son parti. Ainsi en a décidé un juge suite à une requête de celui qui assurait jusqu'ici l'intérim à la présidence du parti. D'autres précisions avec notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Interprétant cette décision du juge rendue le vendredi 26 juillet dernier, le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan indique qu'elle vient conforter la condamnation en 2017 de M. Ama Amadou dans l'affaire dite des bébés importés.
M. Ama Amadou risque justement de se voir opposer cette décision, sinon cette double décision du juge qui est constaté justement la perte de ses droits civils et politiques. D'abord, l'arrêt de la cour d'appel de Niamey de 2017 qui l'est condamné à un an, et sur cette base, l'article 8 du code électoral, justement, ne lui permettait pas d'être électeur, a fortiori être éligible. Et aujourd'hui, cette déchéance vraiment conforte cette position et que, sur le plan juridique, M. Ama Amadou ne pourrait plus prétendre être candidat aux élections présidentielles de 2021.
Malgré cette implication juridique, Ama Amadou et ses farouches militants restent sur leur position. La présidentielle de 2021, ce sera avec eux.
On n'est pas surpris de la décision de la justice. La justice a décidé, on est d'accord. On est d'accord, mais maintenant, nous avons dit que Hama sera notre candidat. Et même si on nous met où qu'ils veulent, Hama sera notre candidat. Nous, au niveau de Lumana, nous allons régler le sort du président Noma, parce qu'un membre de Lumana qui convoque un président de Lumana, donc c'est une faute grave.
Le sort de Omar Nouma a été justement réglé puisque dans l'après-midi du vendredi, plus de deux tiers des membres du bureau politique du parti ont décidé de désigner un autre intérimaire après avoir constaté, disent-ils, sa démission de fait en décidant d'assigner en justice le président du parti. Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille.
C'est des gens que je peux moi qualifier de rebelles. Le matin, il y a une décision de justice qui me confirme intérimaire. Le soir, ils prennent une décision pour désigner un autre intérimaire en violation des textes. Ce n'est pas que je suis contre Ama. J'ai donné ma vie pour lui. Je me bats encore pour Ama. Je me battrai pour lui, mais dans le respect de la loi. Parce qu'avant tout, la démocratie, c'est le respect de la loi.
En rappel, la décision du juge du vendredi dernier a été rendue sur requête de M. Omar Nouma, qui contestait une lettre envoyée par le président du parti, Ama Amadou, depuis son exil, mettant fin à sa fonction de président par intérim qu'il assure depuis le dernier congrès du parti tenu en 2014. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Le Fonds mondial pourrait réduire ou mettre un terme à ses financements au Cameroun. La raison, le non-versement par la partie camerounaise des sommes de cofinancement, soit 20% du montant total de chaque enveloppe reçue. Inquiétude de la société civile de Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
La lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont les trois axes d'intervention du Fonds mondial concernés par une éventuelle suspension ou diminution des financements.
Ce qui se profile, c'est un taux d'incidence du VIH plus élevé.
Serge Yota est le directeur exécutif de Affirmative Action, un organisme de la société civile qui promeut les droits humains et les droits en santé sexuelle.
Si on imagine un Cameroun où le Fonds mondial ne finance plus ou bien limite seulement le financement contre le sida, d'ici 5 ans, tous les acquis qu'on a pu avoir jusqu'à présent soit perdue, qu'on ait passé d'une prévalence, par exemple, du sida de 4,3% à 3,8%. Donc, d'ici 5 ans, on peut passer encore une recrudescence, donc quitter de 3,8% peut-être à 5,3%.
Depuis 2003, le gouvernement a signé 15 accords de subvention avec le Fonds mondial pour un montant de près de 198 milliards de francs CFA. Pour la période 2018-2020, 4 nouveaux accords d'une enveloppe globale de 108 milliards de francs CFA ont été signés entre le Fonds mondial et le pays. Mais pour accéder à la totalité de ce dernier financement, l'organisme onusien exige que le Cameroun se conforme à sa politique de subvention. Le pays doit verser au plus tard, cette fin juillet, un peu plus de 48 milliards de francs CFA, qui représentent les 20% de cofinancement du gouvernement.
Les actions ont été menées à un niveau très élevé. La réponse qui est mise en avant, c'est que le pays a plusieurs priorités.
Lui Merlin Tsamo, secrétaire général du conseil d'association Positive Generation, qui travaille dans le domaine de la santé.
C'est vraiment dommage que la santé ne soit pas la priorité des priorités. Que le public camerounais soit informé de la situation qui prévaut, des enjeux qui sont autour, et qu'elle puisse se mobiliser de manière à mettre la pression sur le gouvernement. Tant que ce sera une affaire de bureau, certains fonctionnaires de l'État camerounais auront tendance à croire qu'on peut jouer avec la santé camerounaise.
À cause de la non-disponibilité du cofinancement du Cameroun cette année, les populations des régions du centre, de l'Est et du Nord-Ouest n'ont pas reçu des moustiquaires imprégnés d'insecticides. La société civile sensibilise à tout vent désormais sur la situation avec le concours de ses partenaires internationaux. Marie-Madeleine Mbala Ebengue, experte nationale chargée des questions du genre au programme des Nations Unies pour le développement.
La recherche du financement, donc ça fait partie de notre mandat. C'est la raison pour laquelle on a pris cette initiative de soutenir la société civile et les médias dans la recherche de financement complémentaire pour appuyer les efforts du Fonds mondial et du gouvernement du Cameroun dans la lutte contre les trois pathologies que sont le VIH, la tuberculose et le paludisme.
Contacté par VOA Afrique, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, département de tutelle en matière de coopération économique internationale, n'a pas expliqué pourquoi le Cameroun ne parvient plus à honorer ses engagements. C'est un sujet sensible, a commenté sous anonymat un cadre de ce ministère. Pour la société civile, la santé de plus de 500 000 personnes vivant avec le VIH-SIDA est en jeu. Yaoundé, Emmanuel Jounoutap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Des milliers de jeunes entrepreneurs africains étaient réunis jusqu'à ce week-end à Abuja au Nigeria pour échanger sur les défis liés à l'entrepreneuriat sur le continent. La rencontre organisée par la fondation Tony Elumelu a également abordé l'épineuse question des financements des entreprises. Reportage de Gilbert Tamba.
Ils étaient plus de 5000 participants et 60 intervenants de trois continents présents à Abuja pour ce grand rassemblement d'entrepreneurs africains. Il y avait aussi 150 promoteurs de PME de 20 pays africains. Le forum marque l'aboutissement du programme qui concerne particulièrement la question du financement des startups en Afrique. Ahmed Abbas est originaire d'Égypte. Il est l'un des bénéficiaires du programme de financement de la fondation Tony Elumelu de 2015.
My startup is called Sun City.
Ma start-up s'appelle Sun City. Nous développons des pompes solaires pour aider les petits agriculteurs qui utilisent des pompes à diesel pour l'irrigation. Donc nous avons trouvé ces solutions alternatives pour les aider à remplacer le diesel par des pompes solaires.
Cette année, la fondation a encadré, formé et financé plus de 3000 jeunes entrepreneurs africains sélectionnés parmi plus de 200 000 candidats. Ces deux jeunes Maliens sont des lauréats pour cette session. Ils reçoivent chacun 5000 dollars américains.
Moi, c'est Kumba Djaki. J'ai été sélectionné lors de la procédure. Moi, je suis dans le domaine du recyclage et de la gestion de déchets. Donc, je fais des meubles avec des pneus usagés au Mali. Et la gestion de déchets est vraiment catastrophique au Mali, ce qui m'a amené à entreprendre dans ce domaine-là. Et le fonds que la fondation va me donner, ce sera, je vais investir dans le domaine.
Khalil Ndiaye, alors je suis là pour le Tony Elumelu Forum 2019 en tant qu'entrepreneur sélectionné. Donc j'ai été sélectionné par le biais d'un projet d'application de taxi qui s'appelle Yubi. Donc l'idée c'est de digitaliser la réservation de taxi par le biais d'une application mobile et web plus tard dans le développement. Alors principalement le fonds de la fondation va permettre au fait de continuer le développement de l'application.
Cet événement était aussi une occasion pour les jeunes du continent de se rencontrer, d'apprendre et de créer des réseaux. Adam Soria Silla, une société de cosmétiques à base de beurre de karité à Bamako.
Je suis là pour éventuellement rencontrer des entrepreneurs, des investisseurs, faire du networking et présenter mes produits aussi.
Quels sont les produits que vous avez à présenter?
J'ai amené ma gamme de produits pour le corps, qui sont des produits qui ont des vertus thérapeutiques, qui soignent aussi la peau, en même temps qui sont des laits non dépigmentants. Parce que c'est ma lutte contre la dépigmentation aussi.
C'est la première fois que ce forum se tient à Abuja et plus de 7000 start-up et petites entreprises du continent ont déjà bénéficié de l'aide de la fondation Tony Elumelu. Les chefs d'État du Sénégal et du Rwanda, entre autres invités, ont échangé directement avec les participants sur l'autonomisation des jeunes entrepreneurs africains. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Les musulmans vivant en République démocratique du Congo seront privés de visa d'entrée en Arabie Saoudite pour participer au pèlerinage annuel à la Mecque en raison de l'épidémie d'Ebola. Dans une lettre à la communauté islamique, le ministre des Affaires religieuses explique qu'il ne peut prendre de risque de contamination de plusieurs millions de personnes. Le 17 juillet, l'OMS a déclaré la 10e épidémie d'Ebola en RDC urgence sanitaire mondiale. Nathalie Barge a joint à Kinshasa Djuma Tahawa, secrétaire général de la COMICO, la communauté islamique en RDC.
La réaction de la COMICO, elle est d'abord divine. Vous savez, en islam, tout ce qui vous arrive, il faut d'abord glorifier Allah, parce que c'est lui qui connaît les motivations de ça. Et de deux, le ministère du pèlerinage de l'Arabie Saoudite fait référer à un hadith du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, disant que quand il y a une maladie contagieuse qui est détectée dans une cité, les gens de cette cité ne peuvent pas quitter la cité pour se rendre dans une autre cité. Et nous l'acceptons en tant que tel, c'est notre foi.
Est-ce que vous êtes associé notamment aux autorités congolaises dans ces efforts pour contrer donc l'épidémie d'Ebola?
Notre imam, le jour de l'Aïd al-Fitri, le 4 juin au stade des martyrs, l'imam avait déjà appelé les autorités nationales pour se pencher sur les cas d'Ebola. Il les avait déjà appelés, mais même moi-même aujourd'hui, j'ai appelé encore les autorités nationales pour que tout le monde se penche. Vous savez que c'est une maladie qui n'est pas facile à traiter et les autorités saoudiennes, parce que la Mecque qui réunit plus de 3 millions de pèlerins chaque année, ne pouvait pas s'hasarder de prendre un tel risque. Nous demandons au gouvernement de la République démocratique du Congo de tout mettre en œuvre pour que cette maladie soit éradiquée. Et les dons qu'on a d'ici et là, de par nos partenaires, que ces dons soient utilisés vraiment pour cette fin-là. La COMICO interpelle les autorités pour qu'elles soient aussi associées dans cette élite, parce que nous avons des prêches à faire par rapport à ceux qui sont résistants. Nous allons leur montrer la raison de coopérer pour qu'on en finisse avec cette maladie.
Justement, en ce qui concerne notamment les décès, certaines traditions empêchent les corps d'être enterrés immédiatement et il y a eu beaucoup de contestations à ce sujet-là par rapport à cette maladie. En islam, ce n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement sur cette question de la gestion des corps après un décès?
C'est l'une des raisons que nous appelons les autorités nationales à nous associer. En pareille circonstance, vous savez d'abord l'islam, de par sa coutume, quelqu'un qui meurt, on doit l'enterrer aujourd'hui. Mais en pareille circonstance, il y a des mesures appropriées pour enterrer un tel corps. Donc, on ne doit pas le laver comme un corps qui est mort dans une situation normale. Là, on ne le lave pas parce qu'on doit seulement faire la prière et puis on part enterrer. De cet enterrement-là, on doit tout faire pour que ça soit enterré à une longue distance de la cité, de sorte qu'il n'y ait plus une seule mouche qui peut revenir à la cité avec la maladie qui avait emporté les défunts.
Djuma Touaha, secrétaire général de la COMICO, la communauté islamique en RDC.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington.